Un jeune électricien meurt dans d'atroces douleurs. L'analyse de ses cheveux permettra de déterminer s'il s'agit d'une intoxication ou s'il a été victime d'un meurtre. À quelques semaines d'intervalle, l'épouse et la belle-mère d'un agent de police meurent toutes les deux de ce qui semble être une crise cardiaque. Un indice laisse présumer qu'il s'agit d'homicide et que l'auteur mène une double vie. Un ingénieur sans problème de santé apparent tombe mystérieusement malade et meurt. Un chèque sans provision déclenche l'enquête. Le poison est un tueur silencieux, mais il laisse toujours des traces. Grâce aux nombreuses techniques de la criminalistique, les détectives peuvent maintenant remonter la piste et identifier ceux qui infligent la mort invisible. À Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, dans la soirée du 7 septembre 1991, on envoya une ambulance à la résidence de Robert et John Curley. Joan déclara aux ambulanciers que son mari semblait éprouver beaucoup de douleurs. Les ambulanciers étaient incapables d'identifier la cause de son mal, mais ils constatèrent que ses signes vitaux étaient dangereusement faibles. Ils conduisirent immédiatement l'électricien de 32 ans à l'hôpital. Les médecins connaissaient déjà Robert Curley. Quelques jours plus tôt, il avait été soigné pour une maladie nerveuse très rare. Il s'était plaint de douleurs aux mains et aux pieds et de nausées sévères. Il avait également subi une abondante chute de cheveux. Ces symptômes s'étant aggravés, les médecins devaient maintenant réviser leur diagnostic. Le neurologue de l'hôpital procéda à de nouvelles analyses, cette fois-ci pour vérifier si le patient n'avait pas été exposé à des produits chimiques toxiques. Deux semaines plus tard, les médecins confirmèrent que les symptômes de Curley étaient dus à une intoxication au thallium, un métal lourd. Jusqu'au début des années 70, on s'en servait abondamment dans les pesticides. Les scientifiques se sont alors rendus compte qu'un contact prolongé avec des solutions concentrées de thallium pouvait être mortel. Le thallium a donc été banni des produits d'usage courant et autorisé uniquement à des fins industrielles. Le toxicologue judiciaire Frederick Readers nous explique les effets d'un empoisonnement au thallium.
C'est un poison qui attaque le système nerveux. Très souvent, ça commence par une sensation de brûlure aux pieds, puis la paralysie commence à monter. On ne peut plus marcher et bientôt on ne peut plus se servir de ses bras. Ensuite, ce sont les paupières qui s'affaissent et puis c'est le cou qui faiblit. Et enfin, le cerveau et le cœur. Tout l'organisme est atteint. C'est un poison très insidieux.
Pour Robert Curley, il était déjà trop tard. Le mal était fait et la situation était malheureusement irréversible. Robert Curley fut victime d'une violente crise cardiaque. On le brancha sur un respirateur artificiel. Peu de temps après, on constata sa mort cérébrale. Sa femme Joan donna son consentement pour qu'il ne soit pas maintenu en vie artificiellement. Quelques heures plus tard, Robert Curley fut déclaré mort. La cause officielle du décès, une défaillance cardio-pulmonaire suite à un empoisonnement au thallium. Il fallait maintenant tenter de découvrir où et comment il avait été exposé à ce produit toxique. Un agent du service de santé et sécurité au travail commença à faire enquête. Selon Joan Curley, Robert travaillait sur un important projet de rénovation au campus de l'université de la région avant sa mort. Peu de temps après son arrivée, Curley avait dit à des collègues de travail qu'il pensait avoir attrapé la grippe. Mais dès la fin de la première semaine, il pouvait à peine marcher. Ses pieds lui semblaient aussi lourds que du plomb. Il transpirait abondamment et avait le visage rouge. Il s'apprêtait à passer le mois suivant à faire la navette entre l'hôpital et la maison. Sur le campus, il y avait des laboratoires et des entrepôts de produits chimiques, notamment 5 conteneurs de sel de thallium. L'agent du service de santé et sécurité au travail commença l'examen minutieux du laboratoire. Il fallait absolument éliminer la source du poison pour éviter que quelqu'un d'autre ne tombe malade. L'équipe d'experts recueillit de nombreux échantillons d'air et analysa quantité d'objets dans plusieurs pièces. L'examen des conteneurs ne révéla aucun signe de bris quelconque ou de fuite. Les experts apprirent par la suite que Curley avait entreposé dans son garage des armoires qui provenaient du laboratoire de chimie de l'université. On fouilla minutieusement le garage de Curley, mais à nouveau, il n'y avait aucune trace de thallium, pas même dans les armoires de l'université. John Curley décida alors de téléphoner au toxicologue de l'hôpital pour en savoir un peu plus au sujet de la mort de son mari. Elle était terrifiée à l'idée qu'elle et sa fille aient peut-être été exposées au poison. Elle réclama d'être toutes deux soumises à des analyses. On découvrit bientôt qu'il y avait bien du thallium dans l'organisme de Joanne Curley, mais pas à un niveau toxique. Quant à sa fille, son organisme en contenait encore moins. 10 fois moins que celui de sa mère. En comparaison, celui de Robert Curley contenait 900 fois la dose toxique. Les médecins étaient formels. Il n'avait pas pu s'empoisonner ainsi par absorption à travers la peau. Il avait ingéré du thallium. L'hôpital transmit les résultats des analyses à la police. Robert Curley ne s'était pas suicidé et l'empoisonnement n'était pas accidentel. Il avait été assassiné. Mais qui avait pu en vouloir à sa vie? Pour le découvrir, il faudrait reconstituer les moindres détails de ses derniers jours. Les policiers recueillirent plusieurs objets dans sa maison. Joanne déclara alors au détective que son mari emportait avec lui un thermos de 2 litres de thé glacé tous les jours au travail. Le soir, la famille se partageait ce qui restait du thé au repas. Les experts réquisitionnèrent le thermos pour le faire analyser. Ils recueillirent également 2 autres thermos, un d'une contenance d'un litre et l'autre de 500 millilitres. Selon Joanne, son mari ne les avait jamais apportés avec lui au travail. On procéda à l'analyse de tous ces objets. Pendant ce temps, les policiers poursuivaient leur enquête. Ils interrogèrent des collègues de Robert. Environ 150 ouvriers travaillaient aux rénovations du campus. Comme tous ces hommes se trouvaient à l'endroit même où Robert était tombé malade, ils devaient tous être considérés comme des suspects. Il fallait tenter de trouver le mobile qui avait pu pousser quelqu'un à commettre ce meurtre. Toutes ces personnes semblaient bien apprécier l'électricien. Certaines d'entre elles déclarèrent que Joanne venait de toucher une importante somme d'argent. Les assurances lui avaient versé $1 million suite au décès de son premier mari lors d'un accident de la route. Cet important gain d'argent était une source de tension entre Robert et Joanne. Robert aurait voulu s'en servir pour monter sa propre entreprise d'électricité. Mais Joanne avait refusé catégoriquement. Elle n'avait aucunement l'intention de financer la réalisation des rêves de son mari. Quelques recherches permirent au détective de découvrir que Joanne devait également toucher la somme de 300 000 dollars advenant le décès de Robert à titre de seul bénéficiaire de ses assurances. C'était suffisant pour mettre illico Johann sur la liste des suspects. Mais comme sa fille elle-même semblait également avoir été empoisonnée, il était plutôt invraisemblable qu'elle ait commis ce meurtre. Au laboratoire, les experts analysèrent près de 100 objets recueillis dans la résidence des Curley. Seuls deux d'entre eux contenaient du thallium. Il s'agissait du thermos de 2 litres que Robert emmenait au travail et celui de 500 millilitres qui, selon les déclarations de Johann, n'avait jamais quitté la maison. Cette découverte était très importante. Si le thermos de 500 millilitres de Robert avait été exposé au thallium, cela signifiait que le poison ne provenait pas de l'université. Il semblait donc que les policiers aient cherché leur suspect au mauvais endroit depuis le début. On laissa filtrer les résultats des analyses afin que la presse locale les publie. Johann déclara alors à la police qu'elle se rappelait un détail qui pouvait expliquer pourquoi on avait retrouvé du thallium dans le plus petit thermos. Lors de l'hospitalisation de son mari, il l'avait appelé et lui avait demandé de lui apporter de la pizza et du thé glacé pour célébrer le départ du patient qui partageait sa chambre. Johann avait transvidé le thé glacé du thermos de 2 litres dans le plus petit et l'avait apporté avec elle à l'hôpital. Les policiers ne pouvaient donc pas éliminer la possibilité qu'un des collègues de travail de Curley ait pu commettre ce meurtre. Malheureusement, aucun d'entre eux n'avait de mobile pour le tuer. L'enquête était dans l'impasse. Elle y resterait pendant les 3 années suivantes. Trois ans après la mort par empoisonnement de Robert Curley, l'enquête fut confiée à la police de l'État de Pennsylvanie. Sans piste ni suspect, les détectives étaient confrontés à un défi de taille. Le sergent Dave Wondolowski était assigné à cette enquête.
Mon objectif était de recommencer à zéro et de traiter cette affaire comme si elle s'était produite la veille.
Le 23 août 1994, le corps de Robert Curley fut exhumé pour être examiné à nouveau. On recueillit des échantillons de ses cheveux et de ses ongles. L'expert Frederick Readers espérait obtenir des informations en mesurant la longueur des cheveux de la victime.
Les cheveux nous permettent de savoir exactement à quel moment le poison a été administré. Les cheveux poussent au rythme de 8 mm par mois. En examinant leurs racines, on peut donc voir ce qui s'est produit quelques jours plus tôt.
Les échantillons de cheveux furent examinés à l'aide d'un instrument utilisant l'énergie atomique. Au cours de cette analyse, l'échantillon est placé dans un tube de graphite, puis chauffé jusqu'à ce qu'il atteigne l'état gazeux. Un faisceau lumineux éclaire l'intérieur du tube. La quantité de lumière absorbée par la vapeur détermine s'il y a présence de thallium, et si oui, en quelle quantité. Les cheveux de Robert Curley recelaient des informations surprenantes.
Les cheveux étaient assez longs pour que nous puissions affirmer que l'empoisonnement au thallium avait commencé en novembre 1990. Peut-être même plus tôt. On lui aurait ensuite administré une autre dose en mars 1991 et une plus petite en avril. Puis on lui a administré une énorme dose en juin et on a continué à lui en donner de plus en plus. Il y a eu une pause et nous avons ensuite découvert qu'il avait ingéré des doses massives de thallium juste avant sa mort.
La seule personne qui disposait d'un mobile et qui était en contact permanent avec la victime était Johann Curley. Les enquêteurs examinèrent à nouveau sa déposition. Le détail le plus intéressant était celui où elle avait déclaré avoir apporté de la pizza et du thé glacé dans le thermos de 500 millilitres à l'occasion du départ d'un patient. Cela s'était produit seulement quelques jours avant la mort de la victime. Les détectives rencontrèrent le patient qui partageait la chambre de Robert, Richard Bonin. Ce dernier avait une version des faits fort différente de celle qu'avait donnée Joanne quelques années plus tôt. Selon Bonin, ni lui ni Robert Curley n'avaient demandé à Joanne de leur apporter à manger ou à boire. Ils n'avaient pas non plus célébré son départ puisqu'il ne devait quitter l'hôpital que quelques jours plus tard. Toujours selon Bonin, ce soir-là, l'état de Curley s'était aggravé. Il hurlait de douleur. Bonin avait immédiatement sonné pour obtenir de l'aide. Il se rappelait clairement que Joanne avait servi du thé glacé provenant d'un thermos de 2 litres. Les policiers croient que Joanne a administré la dernière dose de poison à son mari pendant que les médecins tentaient de lui sauver la vie. Le 12 décembre 1996, Joanne Curley fut arrêtée et accusée de meurtre au premier degré. Dans l'espoir de faire réduire sa peine, elle avoua son crime. Quelques mois après son mariage avec Robert, elle avait compris qu'elle avait commis une erreur. Elle avait d'abord envisagé de demander le divorce, mais la perspective de toucher la police d'assurance vie de Robert l'avait emportée. Elle avait découvert un vieux pot de mort au rat dans le sous-sol et décidé de s'en servir. Ainsi, elle pourrait se débarrasser de son mari et toucher les 300 000 dollars. Joanne ajoutait régulièrement le poison au thé glacé. Pour détourner les soupçons, elle en avait ingéré une petite quantité et en avait également administré à sa fille. Pendant un certain temps, ses manœuvres de diversion avaient fonctionné. Joanne Curley avait échappé à la justice pendant plus de 5 ans. Joanne Curley fut condamnée à une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans au pénitencier d'État de Pennsylvanie. C'est sur une longue période que Curley avait empoisonné sa victime. D'autres meurtriers sont moins méthodiques, mais leur façon de s'y prendre n'en est pas moins mortelle. Dans ce cas-ci, les noms des victimes et du meurtrier ont été changés. Le 30 janvier 1985, le patrouilleur Walter Wallace se rendit de toute urgence à l'hôpital. En tant que policier expérimenté du service de police de Rosell, au New Jersey, ce n'était pas la première fois qu'il répondait à un appel d'urgence. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'une affaire personnelle. Le médecin informa Wallace que sa femme, Beth, avait fait une chute et qu'elle avait été victime d'une crise cardiaque. Wallace était en état de choc. Sa femme se portait très bien lorsqu'il était parti travailler plus tôt dans la soirée. Beth n'avait jamais été victime d'attaque. Elle avait des problèmes de poids, mais sa santé était relativement bonne. Malheureusement, son état empirait et les médecins n'avaient pas beaucoup d'espoir de la sauver. Cette crise subite était difficile à expliquer. 3 heures plus tard, Beth Wallace mourait. Beth et Walter étaient mariés depuis 24 ans et avaient eu 3 enfants. La mère de Beth, Rose Parker, vivait chez eux au moment du drame. À cause de la mort soudaine et inexplicable de Beth, son médecin demanda qu'une autopsie soit pratiquée. On détermina que la mort avait été causée par un arrêt cardiaque. 1 mois plus tard, le sort s'attaqua à nouveau à la famille Wallace. Rose Parker fut victime d'une crise cardiaque à son tour. Les ambulanciers tentaient désespérément de stabiliser son état et de la transporter au plus vite à l'hôpital, mais il était trop tard. Peu après son arrivée, elle mourut. Au bureau du procureur de Union County, les enquêteurs apprirent la nouvelle de ses décès par le biais de l'avocat de Rose Parker. La mort subite de ces deux femmes en santé en l'espace d'un mois à peine avait éveillé ses soupçons. Il demanda aux enquêteurs d'examiner le passé de Walter Wallace. Le chef de police, Edward Johnson, demanda au service de police de Roselle qu'on lui envoie le dossier personnel de Walter Wallace. C'est à partir de ces documents qu'un portrait de l'homme commença à se dessiner.
Il avait été dans plusieurs unités de combat au Vietnam. Pour une raison ou une autre, je ne me rappelle pas exactement ce qui a suscité mon intérêt. Je consultais son dossier et j'étais impressionné par le passé de cet homme. Et puis, tout à coup, quelque chose m'est apparu suspect.
Johnson entra en contact avec un des responsables de l'armée américaine pour vérifier les antécédents de Wallace.
Wallace n'avait reçu aucune de ces médailles ni fait partie des unités spéciales. De fait, nous ne savions même pas s'il avait fait son service militaire outre-mer. Le document qui se trouvait dans son dossier était un faux.
Walter Wallace avait donc menti. Mais il ne fallait pas sauter aux conclusions trop vite. Afin d'en apprendre un peu plus à son sujet, les détectives décidèrent d'interroger les gens de son entourage, comme des policiers par exemple.
Il est toujours difficile de mener une enquête lorsque le suspect est un policier. On doit se rendre au service de police où il exerce ses fonctions, interroger les gens qui travaillent avec lui tous les jours. Plus on parle aux gens, plus il leur est facile de deviner où l'on veut en venir.
Les enquêteurs rendirent une visite discrète au service de police de Roselle pendant le congé de Wallace. Ils ne s'attendaient pas à ce que ses collègues soient avenants, mais l'un d'entre eux les surprit. Selon lui, le statut matrimonial de Walter n'était pas clair. Il soupçonnait Walter d'avoir épousé une femme du nom de Jacqueline Deal alors qu'il était encore marié à Beth. Walter avait-il divorcé ou menait-il une double vie? Par l'entremise d'amis de Beth, les détectives apprirent que Walter n'était pas souvent à la maison. Il avait dit à sa femme qu'il se faisait soigner dans un hôpital de Virginie parce qu'il avait été exposé à des gaz défoliants pendant la guerre.
Il partait pour une semaine, parfois plus, ou encore pour le week-end. Elle n'avait pas de ses nouvelles et ne pouvait pas non plus entrer en contact avec lui, soi-disant parce que le pavillon de l'hôpital où il se trouvait n'avait pas le téléphone. Pendant un bout de temps, il a mené cette double vie avec un certain succès.
Les détectives se rendirent dans la ville voisine d'Elizabeth, au New Jersey, afin d'interroger l'autre épouse de Wallace. Selon Jacqueline Deal, Walter et elle s'étaient mariés le 2 novembre 1984, soit 3 mois avant le décès de Beth Wallace. Elle déclara que Walter avait divorcé de sa femme l'été précédent. Il lui avait apporté les papiers de divorce une fois l'affaire réglée, et ils avaient célébré l'occasion. Ces papiers se trouvaient parmi les documents fournis par l'avocat de Rose Parker. Le document présentait de nombreuses irrégularités. Les détectives se rendirent ensuite à la cour du comté chercher les papiers originaux. Il n'y avait aucun document sous le nom de Wallace. Lorsqu'ils vérifièrent le numéro du cas, ils constatèrent qu'il s'agissait du numéro de divorce d'un autre couple. Le document indiquait clairement Martin contre Martin et non Wallace contre Wallace. Wallace s'était servi de son autorité en tant que policier pour réquisitionner les papiers de divorce des Martin. Il avait ensuite falsifié le document afin d'obtenir son permis de mariage avec Jacqueline. Les détectives envoyèrent ce document au laboratoire du FBI pour le soumettre à un examen plus poussé. Ils venaient de prendre à nouveau Wallace en flagrant délit, et ce nouveau mensonge pouvait fort bien être le mobile du meurtre. Mais il laissait cependant les enquêteurs perplexes. Pourquoi Wallace s'était-il donné tant de mal pour simuler un divorce et tuer sa femme plutôt que de mettre tout simplement fin à son mariage ? Les détectives se mirent à la recherche d'un mobile financier et examinèrent attentivement le testament de Beth. Walter devait hériter de tous ses biens, notamment du domicile familial. Mais à nouveau, quelque chose dans ce document retint l'attention des policiers. Le testament avait été fait seulement 2 mois avant la mort de Beth. Le hasard semblait bien faire les choses. Une enquête plus poussée leur permit de découvrir l'existence d'un testament plus ancien. Dans cette première version, Beth léguait tous ses biens à sa mère. Elle ne laissait pas un seul dollar à son mari. Il y avait de fortes chances que Wallace ait contrefait le testament de sa femme, puis qu'il l'ait tué. Le Nouveau Testament avait été notarié par une secrétaire assermentée du service de police de Roselle. Pourtant, cette dernière déclara n'avoir jamais vu le document et encore moins y avoir apposé son sceau. Elle leur fit cependant remarquer que Wallace venait souvent travailler à son bureau. Comme ses tiroirs n'étaient pas verrouillés, il avait facilement pu utiliser le sceau à son insu. Les détectives avaient accumulé des preuves indirectes contre Wallace, mais cette série de documents falsifiés ne prouvait pas qu'il y avait eu homicide. Les détectives de Roselle, au New Jersey, soupçonnaient l'agent de police Walter Wallace d'avoir empoisonné sa femme. Ils espéraient maintenant étayer leurs preuves indirectes par une démonstration en bonne et due forme de la culpabilité de Wallace. 4 mois après le début de l'enquête, les experts du laboratoire judiciaire du New Jersey examinèrent les résultats des analyses toxicologiques des tissus, du sang et de l'urine de Beth. Les analyses qui avaient été effectuées lors de l'autopsie avaient pour but d'identifier la présence d'alcool et de drogues illégales. Les résultats s'étaient révélés négatifs. Les experts soumirent les échantillons à de nouvelles analyses afin de déterminer la présence éventuelle de médicaments sur ordonnance, de métaux lourds et d'un certain nombre de toxines. Mais ils ne trouvèrent rien qui pouvait expliquer la mort de Beth. Il restait toutefois une analyse à effectuer, celle de l'empoisonnement au cyanure. On plaça dans des éprouvettes des échantillons de tissu de la victime. On y ajouta ensuite un colorant qui entre en réaction en présence de cyanure. L'échantillon vira au mauve foncé. Il y avait bien du cyanure dans l'organisme de Beth au moment de sa mort. Pour en déterminer la concentration, on plaça l'échantillon dans un spectrophotomètre. La dose mortelle du cyanure est d'environ 2,5 mg par litre. Dans le cas de Beth, il y en avait le double dans son sang et le triple dans sa rate. Il fallait maintenant tenter de démontrer qu'il y avait un lien entre le poison et le suspect, Walter Wallace.
Les détectives affectés au service des homicides se sont mis au travail et ont frappé aux portes des usines de Roselle. Nous les avons toutes visitées, même si elles n'étaient pas censées détenir du cyanure. Nous nous arrêtions et nous leur posions la question.
Le travail des détectives porta fruit. Le commis d'une entreprise de plaquage de métal déclara qu'un agent de police était venu acheter du cyanure de potassium. Il lui avait confié que grâce à ce produit chimique, il pouvait faire apparaître le numéro de série d'une arme à feu. Le commis était convaincu qu'il s'agissait bien de Wallace. Le 18 juin 1985, le suspect arriva au quartier général de la police. On lui demanda de se présenter au bureau du chef. Il fut mis en état d'arrestation et escorté jusqu'à la prison. On émit un mandat de perquisition de sa résidence. Le procureur demanda l'aide de l'équipe des narcotiques. Eux seuls avaient l'expertise nécessaire pour mener une fouille méticuleuse. James Durkin faisait partie de l'équipe.
Une fois à l'intérieur de la maison, nous avons compris pourquoi on nous avait demandé. La maison était dans un fouillis incroyable. Ce jour-là, une équipe fouillait le grenier, une autre la cave, et nous devions nous rencontrer à mi-chemin.
Les experts y recueillirent près de 100 objets. Le suspect avait dissimulé une machine à écrire derrière le canapé. Des documents juridiques, dont le certificat de divorce original des Martin, se trouvaient dans un tiroir. À l'étage, l'escouade des narcotiques ouvrit la trappe qui menait au grenier. Des échantillons d'écriture ainsi qu'une page de signature contrefaite furent recueillis. Après seulement 15 minutes de recherche, un des membres de l'équipe découvrit un indice crucial. Une bouteille vide. Sur l'étiquette se trouvait l'inscription manuscrite « Cyanure de potassium ». Les divers objets réquisitionnés furent envoyés puis examinés au laboratoire, de même que le certificat de divorce et le testament. La machine à écrire du suspect reproduisait toujours la même erreur d'espacement, ce qui avait été remarqué sur les documents falsifiés. Mais encore plus incriminantes étaient les signatures qui avaient été décalquées. De plus, la bouteille recueillie dans le grenier de Wallace avait bel et bien contenu du cyanure. Quant à l'étiquette, elle avait été écrite de la propre main du suspect. En mai 1986, Walter Wallace fut trouvé coupable de bigamie et du meurtre au premier degré de sa femme. La police croit que la double vie de Wallace était devenue trop compliquée. Plutôt que de demander le divorce, il avait choisi de tuer son épouse. Mais sa tentative de financer sa nouvelle vie à même les ressources de Beth avait causé sa perte. Wallace fut condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 30 ans. Il ne fut jamais accusé du meurtre de sa belle-mère, Rose Parker, faute de preuves. La vie secrète de ce policier avait été le mobile de son crime. Pour d'autres meurtriers, le mobile est bien plus simple. Dans cette affaire, les noms des victimes et du meurtrier ont également été changés. Le 17 juillet 1991, Dana Jacobs fut réveillée par son mari, en proie à d'atroces douleurs. Il semblait victime d'un empoisonnement alimentaire. Il se plaignait de violentes douleurs à l'estomac, avait la nausée et la diarrhée. Le lendemain, lorsqu'elle constata que son état ne s'était pas amélioré, elle décida de l'emmener à l'urgence de l'hôpital. Elle demanda au voisin, John Ballier, de s'occuper de leurs enfants. Ce dernier était inquiet. Larry avait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis quelques semaines en raison de troubles gastro-intestinaux. Il fut admis de nouveau à l'hôpital Humana Suburban à Louisville, au Kentucky. Les médecins lui administrèrent un soluté pour l'empêcher de se déshydrater. Il y avait lieu de s'inquiéter. Même s'il semblait avoir les symptômes habituels d'un empoisonnement alimentaire, il ne réagissait pas bien au traitement administré. Le lendemain, Dana téléphona à son voisin John Ballier pour lui annoncer que Larry, son mari, était mort. Elle lui demanda de ne rien dire aux enfants avant son retour.
Cela nous a profondément affectés. Les enfants étaient là avec nous, ils étaient heureux. Ils ne savaient pas que leur père était mort et que leur vie allait changer du tout au tout.
Avec la permission de Dana, on procéda à une autopsie du corps. Les médecins espéraient découvrir ce qui avait pu tuer cet homme de 41 ans qui avait toujours été en bonne santé. Jacobs semblait mort d'une violente attaque cardiaque. Pourtant, rien n'indiquait qu'il avait le cœur malade et il ne présentait aucun facteur déclencheur. La mort soudaine de ce patient était incompréhensible. Le lundi matin, John Ballier raconta les tristes événements du week-end à ses collègues du bureau du procureur du Kentucky. Peu de temps après, un collègue de Ballier lui fit part d'une nouvelle pour le moins intrigante. Son beau-frère dirigeait une compagnie de produits chimiques et Dana Jacobs était venue chez lui pour effectuer des achats. Elle s'était présentée le jour même où son mari était tombé malade. Elle avait acheté un produit appelé colchicine. Le beau-frère de l'avocat s'était souvenu de la transaction parce que le chèque que lui avait remis Dana était sans provision.
Son beau-frère a téléphoné en lui disant que le chèque avait des provisions insuffisantes. Il trouvait étrange que ces deux événements impliquent la même famille.
Ballier fit des recherches à propos de ce produit chimique. À petite dose, la colchicine est utilisée pour le traitement de la goutte. En dose plus importante, elle est toxique et peut provoquer la mort. Ballier téléphona à Barbara Wickley-Jones, l'adjointe du coroner en chef du Kentucky.
La ligne entre le niveau thérapeutique, celui qui apporte le soulagement à l'arthrite goutteuse, et celui qui cause des effets secondaires est mince. Les principaux effets sont la nausée, les vomissements et la diarrhée. Dans le pire des cas, elle peut provoquer la mort.
Les analyses d'usage pratiquées lors de l'autopsie ne pouvaient pas révéler la présence d'une substance aussi spécifique que la colchicine. Barbara Wickley-Jones préleva des échantillons de sang et de tissu de la victime afin de procéder à de nouvelles analyses. Elle n'était pas convaincue d'obtenir des résultats positifs. Si Jacobs avait absorbé de la colchicine, son système sanguin avait très bien pu l'éliminer avant sa mort. Son seul espoir était d'en retrouver des résidus dans certains de ses organes.
Parce que le système gastro-intestinal absorbe la colchicine, elle est métabolisée en partie par le foie et éliminée par les reins. Lors de l'autopsie, c'est donc dans ces organes qu'il faut chercher des résidus éventuels de la drogue.
Il faudrait 2 semaines avant d'obtenir les résultats. Les détectives devaient encore attendre pour savoir si Larry Jacobs avait réellement été victime d'un meurtre. Larry Jacobs, 41 ans, père de 2 enfants, avait été foudroyé par une maladie gastro-intestinale inconnue. John Ballier, le voisin de Jacobs et avocat du procureur, trouvait la situation suspecte. Il assigna le détective Pat Conkling du service de police de Jefferson County à cette enquête. La veille de la mort de la victime, son épouse avait acheté une substance chimique potentiellement toxique appelée colchicine. La première étape de l'enquête consistait à rencontrer les responsables du bureau du coroner de l'État. Les résultats de l'analyse toxicologique des tissus de Larry Jacobs étaient enfin arrivés. Son organisme contenait 160 nanogrammes par millilitre de colchicine. Une quantité largement suffisante pour le tuer. Il était maintenant temps de confronter Dana Jacobs aux faits. Les policiers furent surpris par l'accueil que leur réservait Dana.
Elle nous a invités à entrer. Rien ne semblait anormal et elle était très cordiale avec nous. Elle n'a jamais semblé éprouver la moindre hésitation à nous parler.
Elle reconnut immédiatement avoir acheté de la colchicine. Elle déclara qu'elle l'utilisait dans sa piscine comme algicide. Les détectives lui demandèrent s'il lui en restait encore. Elle répondit qu'elle l'avait utilisé complètement.
Je lui ai demandé qui lui avait parlé de ce produit. Et elle m'a donné le nom de plusieurs commerces où on lui avait suggéré de l'utiliser pour contrôler le développement d'algues.
Les détectives téléphonèrent aux trois commerces mentionnés par Dana Jacobs. Personne ne se souvenait avoir dit que la colchicine pouvait servir d'algicide. En fait, la plupart des employés ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Les enquêteurs étaient dans l'impasse. Ils savaient ce qui avait causé la mort de Larry Jacobs, mais ils ignoraient pourquoi. Il fallait espérer que le passé du couple fournirait quelques indices. Ils rendirent visite à la sœur de Larry. Cette dernière déclara à la police que le couple éprouvait de graves difficultés financières à cause du train de vie excessif de Dana. Des membres de la famille leur avaient prêté plusieurs milliers de dollars, mais n'avaient jamais été remboursés. Larry avait d'ailleurs récemment confié à sa sœur avoir tenté de prendre des mesures pour contrôler les dépenses de Dana, mais sans succès. Toutes leurs cartes de crédit avaient atteint leur maximum. Un des collègues de Larry se rappelait même lui avoir prêté de l'argent au cours d'un voyage d'affaires afin qu'il puisse payer ses repas et sa chambre d'hôtel. L'ingénieur lui avait avoué qu'il n'avait pas d'argent comptant ni de crédit. De plus, il y avait les assurances. Larry avait acheté deux polices d'assurance vie, une au montant de 138 000 $ et l'autre de 250 000 $. Les détectives fouillèrent les antécédents de Dana Jacobs. Cette femme respectable et mère de famille avait en fait un passé inquiétant. Avant son mariage, elle avait été incarcérée pour avoir émis des chèques sans provision. Dans son dossier carcéral, un psychologue avait indiqué qu'elle était mythomane et devait recevoir des soins psychiatriques le plus rapidement possible. Dana Jacobs fut arrêtée et accusée de meurtre en janvier 1992. Les policiers étaient convaincus d'avoir mis la main sur une meurtrière. Mais un nouvel indice allait peut-être l'innocenter. 5 mois après la mort de Larry Jacobs, sa veuve, Dana, avait été inculpée de meurtre. Elle avait payé sa caution et demeurait chez elle avec ses enfants. Quelques semaines avant son procès, elle déclara avoir fait une découverte qui allait l'innocenter. Son mari avait laissé une lettre dans laquelle il déclarait qu'il avait l'intention de se suicider, que ses problèmes financiers étaient trop lourds à supporter. Les détectives étaient sceptiques, mais la note semblait bien avoir été rédigée de la main de Jacobs. De plus, il était connu que Larry était en proie à des accès de dépression à cause de son manque d'argent. De par sa formation d'ingénieur chimique, il connaissait vraisemblablement la colchicine et pouvait s'en être servi pour mettre fin à ses jours. La lettre fut envoyée à Steven Slater, spécialiste en analyse de documents. Ce dernier remarqua d'abord que deux crayons différents avaient été utilisés.
Dans un paragraphe, le trait d'une phrase ou deux était plus mince, puis le trait était plus large pour quelques mots et ainsi de suite.
Il devint rapidement évident que la lettre avait été créée de toutes pièces, avec des mots qui provenaient d'échantillons d'écriture de Larry Jacobs. Pendant les 5 mois qui avaient suivi le décès de son mari, Dana Jacobs avait dépensé près de 200 000 $, soit la moitié de la somme qu'elle avait touchée de l'assurance. La lettre de suicide était sans doute son ultime tentative d'échapper à la justice. Une autre information incriminante provenait de la fille de John Ballier, le voisin de l'accusé. Sarah Ballier déclara en cours avoir aperçu Dana Jacobs en train de remplir des capsules de gélatine de poudre blanche. Dana lui avait confié qu'elle faisait des vitamines pour les mettre dans les aliments de son mari. Elle lui avait également dit que c'était la seule façon de lui en faire prendre. C'est ainsi, selon la police, que Dana Jacobs réussit à empoisonner son mari, qui ne se doutait évidemment de rien. Le 23 novembre 1992, elle fut jugée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à 28 ans de prison. Invisible, mais mortel. Depuis l'Antiquité, le poison permet aux meurtriers d'agir en toute impunité. Heureusement, la science met de nouveaux outils à la disposition des détectives. Ils peuvent ainsi lever le voile de mystère entourant ces meurtres et arrêter leurs auteurs.